Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Vous avez bien entendu, Bérénice, comme moi, 30 km/h dans Paris.
Oui, hein, fin août. Plein de petits escargots.
C'est super.
Mais en revanche, il faudrait que les vélos et les trottinettes aillent moins vite.
C'est vrai.
Et respectent les feux.
Il faudrait réduire la vitesse des vélos et des trottinettes.
Oui, parce que c'est 30
surtout
aussi
sur les trottoirs. Les trottoirs, c'est interdit,
alors ça,
mais ils roulent comme
des malades.
Qu'est-ce que ça
m'énerve. Ils roulent et ils foncent dedans et c'est nous qui sommes en tort.
Ah là là.
Bon, ça commence bien.
chers amis, bienvenue. Il est 7h03. Vous êtes sur Radio Immo. On est très heureux de vous retrouver. Bon réveil, bien évidemment. Si vous nous rejoignez, ma chère Bérénice Deville, on est ravis de vous accueillir également.
Eh bien, je suis ravie d'être avec vous, mon cher Christophe Bordet.
C'est formidable. C'est le Mag de l'Immo, c'est reparti pour un tour. Et j'ai même envie de dire, parce que je le sens, c'est un peu comme les chiens de chasse, comme les épagneuls bretons, par exemple. On sent que c'est la dernière de la saison.
Eh oui. Ça passe vite, hein.
Bah oui, il faut prendre quelques vacances quand même. Oui. 2 heures d'infos, de découverte à 8h. L'invité du MAG, une femme exceptionnelle. Léa Mosconi, présidente de la Maison de l'Architecture Île-de-France, sera avec nous, bien sûr. Jean-Michel Royot sera également avec nous, comme chaque vendredi, pour nous présenter une start-up. Et aujourd'hui, une start-up qui permet à nos aînés de ne plus être seuls chez eux. On parlera également santé dans l'habitat au cours de cette matinale qu'on est vraiment ravis de passer avec vous, bien évidemment. Évidemment, ma chère Bérénice, j'ai envie de vous dire, c'est parti mon kiki.
Eh bien, allons-y.
Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et on va commencer avec une grande peur pour les propriétaires, les squatteurs.
Ah, c'est vrai qu'on a vécu quand même effectivement quelques histoires.
Alors récemment,
les médias qui étaient assez incroyables.
Ouais, et il y en a énormément en France, sauf qu'on n'en parle pas. Les médias en parlent que depuis peu de temps. Alors, connaissez-vous Squat Solution ?
Non, mais je sens que je vais le connaître.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une entreprise qui fait quelque chose d'assez inédit. Hein. C'est la première fois qu'on voit ça. Elle négocie avec les squatteurs pour les faire partir. C'est quand même dingue. Hein.
Ah ouais.
Élodie Rabel, justement, s'est entretenue avec son fondateur, Yann Collet.
Bonjour Yann Collet.
Bonjour madame.
Vous êtes le fondateur de Squat Solution. Alors, comme ça, vous avez eu l'idée de faire ce que ni la police ni la justice ne font, c'est-à-dire négocier avec les occupants illégaux. Comment vous est venue cette idée ?
Je suis arrivé à Paris il y a 5 ans et à côté de mon domicile, il y avait une maison squattée depuis 13 ans. Et en échangeant avec les voisins, c'est là que j'ai eu connaissance qu'elle était squattée depuis de nombreuses années. Il y avait beaucoup de nuisances dans le quartier. Et je me suis intéressé à ce dossier. Et de fil en aiguille, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis une multitude de biens squattés.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites pour faire partir ces squatteurs ?
Je m'habille en rose. Ça apporte un petit peu de douceur. Donc en aucun cas, on fait acte de violence. Je les rencontre, j'essaye de les convaincre de partir d'eux-mêmes. Avec une possibilité de leur verser une indemnité d'éviction. Et puis, s'ils acceptent, c'est tant mieux, on s'évite de longues procédures qui sont coûteuses, aussi bien pour nous, l'acquéreur, ou pour le propriétaire, parce qu'il est évident qu'un squatteur qui va partir tout de suite, eh bien, ça monte le prix du bien. À l'inverse, si on a des squatteurs qui sont compliqués, récalcitrants, et avec une sortie espérée dans 24 ou 30 mois, ça baisse le prix du bien. Donc celui qui perd, c'est le propriétaire. Donc l'idée était de négocier avant de signer l'acte définitif avec les squatteurs pour trouver une issue qui soit profitable au propriétaire.
Très bien, alors vous parlez de primes. Vous leur versez combien pour partir ?
En règle générale, c'est 1 000 euros par occupant. La loi nous interdit de verser plus de 1 000 euros en numéraire et beaucoup de squatteurs sont des migrants, ils n'ont pas de compte bancaire, donc on peut leur donner que 1 000 euros.
D'accord, donc parlons un peu business parce que cette activité, vous en avez fait une véritable entreprise. Comment ça fonctionne ? Comment vous financez en fait le départ de ces mauvais payeurs ?
Sur fonds propres. Vous savez, on est énormément sollicité par les études notariales. C'est eux, le notaire, quand il est face à un dossier compliqué, surtout du squat, eh ben, c'est pas lui qui va aller voir les squatteurs en mocassin et en costume pour trouver une solution. Donc souvent, les dossiers traînent, ce sont souvent des personnes âgées, la moitié du temps, ce sont des biens qui, issus de successions qui n'ont pas été réglés, parce qu'il est évident que le squatteur, quand il passe dans une rue, s'il voit une maison occupée, il va pas lui venir à l'idée de rentrer, à part s'il n'y a plus d'être squatteur, il est voleur. Mais en règle générale, quand il passe dans une rue puis qu'il y a une maison qui est fermée depuis des mois, voire des années,
bah,
il
dit peut-être mais que d'où viennent alors ces 1000 euros que vous donnez aux occupants illégaux?
Alors, ces 1000 euros, on les prend sur le compte de la société. Et puis, le jour de la remise des fonds, il y a un huissier de justice qui vient et nous faisons un constat avec des photos de la remise des fonds et nous signons un petit contrat avec les occupants. Et on essaye toujours d'avoir ou une carte de séjour ou un permis de conduire étranger ou une pièce d'identité parce qu'il nous faut un nom à mettre sur le contrat.
D'accord. Et vous, vous vous rémunérez ou pas?
Alors, on se rémunère, non, on ne se rémunère pas sur la sortie des occupants. Nous, notre métier, c'est d'acheter les biens. On achète les biens squattés avec les squatteurs, d'accord? Une fois que le bien est acheté, deux possibilités. Ou on indemnise le squatteur pour qu'il parte et il parte de lui-même, et c'est tant mieux pour tout le monde. Lui, il a un petit pécule, et puis nous, ça nous évite une procédure qui est longue. Ou alors, s'il refuse, eh bien là, on va prendre un huissier et un avocat, et on va faire une procédure d'expulsion classique.
Alors, à ce jour, vous êtes intervenu sur combien de logements?
Sur une année, en moyenne, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est à peu près à 300 lots.
Alors, attendez, je reviens un peu sur ma question précédente. Je ne comprends pas comment vous financez votre entreprise.
Les banques ne prêtent pas d'argent. Il faut le savoir, parce que le banquier, quand il prête de l'argent, la première chose qu'il demande, c'est d'assurer le bien qu'il a financé. Et puis, il n'y a pas d'assureur qui assure les squats. Donc, nous avons deux partenaires financiers qui nous suivent et qui nous mettent des lignes de crédit à disposition de manière à pouvoir acquérir les biens.
D'accord, mais vous les remboursez comment, les crédits?
Alors, il y a une hypothèque sur le bien. Ça veut dire quand on achète un bien, par exemple 100 000 euros, le prêteur met une hypothèque sur le bien et le jour de la revente du bien, eh bien, le prêteur va récupérer ce qu'il a prêté.
D'accord. Donc, une fois que vous délogez les squatteurs, vous remettez en état la maison, vous l'achetez grâce à des crédits et vous remboursez le crédit en revendant l'habitation, c'est ça?
Tout à fait, c'est ça.
D'accord, très bien. Eh bien, merci Yann Collet. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de Squat Solutions.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
C'est Tardis sur Radio Imo, on se réveille tous ensemble pour cette dernière.
Et tout doucement.
Tout doucement, c'est vrai, on a encore les yeux un peu qui piquent là, ouais. Ça se voit. On va parler, crise sanitaire, voilà, on en parle beaucoup, on la met un peu à toutes les sauces, mais c'est vrai que, on pensait qu'avec la crise, les impayés allaient bondir. Finalement, c'est pas le cas. On s'aperçoit que le désastre annoncé n'a pas lieu, mais des inquiétudes, on est quand même inquiets, se forment sur les mois à venir. Dites-nous.
On a quelques chiffres. Chiffres là-dessus, 42% des propriétaires et 57% des locataires déclarent avoir rencontré d'abord des difficultés liées aux revenus ou au logement depuis le début de la crise sanitaire. Les aides publiques ont joué leur rôle d'amortisseur, bien évidemment, pendant cette crise. Cependant, les Français sont effectivement sceptiques pour les mois à venir. Un Français sur trois pense que les impayés vont augmenter. La raison de cette inquiétude, la fin des aides donc dont on parlait il y a un instant, l'Agence nationale pour l'information sur le logement indique que le niveau des sollicitations retrouve son rythme habituel, notamment sur le parc social, 1% avant la crise, 2% aujourd'hui, donc ça a doublé, et la tendance n'est pas à la baisse donc. Le risque d'impayé ne concerne d'ailleurs pas que les loyers, les charges de copropriété risquent aussi de souffrir de retards de paiement. La directrice de l'ANIL rappelle par ailleurs la nécessité de se mobiliser dès le premier mois de retard, qu'on soit locataire ou propriétaire. Un avis partagé par une majorité de Français, les trois quarts d'entre eux sont favorables à ce que les gérants de biens et notamment professionnels prennent le relais du locataire en cas d'impayé, une volonté qui fait d'ailleurs écho au mandat de sécurisation totale aux propriétaires bailleurs proposé par le député Michaël Nogal que nous connaissons bien sur Radio Imo. Voilà.
Tout à fait.
Le Mac de l'Imo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Grand sage, j'aimerais que mon agence immobilière soit plus visible par les particuliers.
Je sais.
Mais alors, que dois-je faire ?
Ma tablette, ma vision me dit meilleurs agents.
Meilleurs agents ? Mais je...
Je sais.
Mais alors, qu'est-ce que vous ne savez pas, grand sage ?
Je ne sais pas ce que vous attendez pour être présent sur les 3 sites immobiliers les plus visités par les vendeurs en France.
Bah, moi non plus.
Ah bah, je le savais. Eh oui, les agents les plus sages ont choisi Expérience Vendeur, une offre unique pour se rendre visible simultanément sur meilleurs agents, se loger et Logique Immo. Découvrez-la sur pro.meilleursagents.com. Meilleurs agents, numéro 1 de l'estimation immobilière et des comparateurs d'agences.
Meilleur bien, le réseau humain, digital et équitable, constitué uniquement de conseillers immobiliers passionnés, expérimentés et motivés. Et en plus, 100% de nos agents gagnent 100% de commission sur toutes leurs ventes. Ils sont nombreux à avoir rejoint l'aventure. Alors, pourquoi pas vous ? Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Tiens, 7h13 sur Radio Imo, c'est le Mac de l'Imo comme chaque vendredi avec vous, ma chère Bérénice Deville. Vous allez en boîte de temps en temps, boîte de nuit ou pas ?
Oh, j'ai plus l'âge, Christophe.
Ah bon ?
Non.
Vous me paraissez si jeune.
Oui, mais non, j'ai plus l'âge. Mais pourquoi pas, peut-être une fois avec les copines pour un enterrement de vie de jeune fille.
Ah, je croyais que c'était déjà fait. Bon, on ne va pas dévoiler toute votre vie. En tout cas, c'est la réouverture des boîtes de nuit ce soir avec des règles sanitaires très restrictives. Une étude de Liberkis, d'ailleurs, je voulais vous en parler un petit peu, vient de paraître, oui, qui montre qu'un bien situé au-dessus d'une discothèque perd en moyenne, et c'est pas négligeable, 3,5% de sa valeur. C'est notamment le cas à Paris. C'est automatique, il faut le savoir. Donc acheter au-dessus d'une discothèque, c'est pas plus mal. En tout cas, on souhaite, quoi qu'il en soit, bon courage évidemment à tous ces gérants de discothèques, parce que ça fait un an maintenant que les boîtes de nuit sont fermées. Donc bon courage à vous pour ce soir. On continue, ma chère Bérénice.
Et on va parler santé, docteur Suzanne Deoux, médecin ORL et présidente de Bâtiments Santé Plus. C'est à l'initiative du colloque Défi Bâtiments Santé qui existe depuis 10 ans maintenant. Alors son combat est celui de réunir de nombreux acteurs et partenaires pour interagir et avancer sur les questions liées à la santé dans le monde du bâtiment. C'est quand même très important.
C'est intéressant.
Ah oui, c'est important, faut en parler. Une femme de combat, donc inspirante et positive, c'est une interview menée par Kenza Breiga.
Bonjour Suzanne Deoux.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes médecin, mais surtout présidente de Bâtiments Santé Plus. Vous êtes surtout l'initiatrice de ce grand projet, donc de ce colloque qui a 10 ans, aujourd'hui, puisque vous fêtez les 10 ans grâce à cette édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné le déclic de créer un tel événement il y a 10 ans déjà ?
Alors, ce colloque est né au sein de l'Université d'Angers, où j'ai créé un master, il y a plus de 10 ans, un master risque en santé à l'environnement bâti. Comme c'était de nouvelles compétences et un nouveau métier d'ingénierie de santé dans le bâtiment, il fallait faire connaître les compétences de mes jeunes. Et donc, avec l'appui de deux partenaires, Saint-Gobain et Uniclimat, on a lancé en 2011 ce colloque pour faire... Il était construit par les étudiants et pour les étudiants pour faire connaître leurs compétences. Donc, on a, depuis 2011, nous avons chaque année traité une thématique différente. La première année, c'était pourquoi est-ce que les bâtiments respectueux de l'environnement sont favorables à la santé ? Et ensuite, on a fait produits de construction, qualité de l'air. Donc, je passe beaucoup de thèmes. Et cette année, c'est aussi un sujet majeur parce que est-ce que on se préoccupe de la santé dans l'économie circulaire.
Et oui, évidemment.
Voilà.
Alors, il y a 10 ans, évidemment, vous avez créé cet événement. 10 ans sont passés. Est-ce que vous avez observé de grandes avancées significatives que vous avez envie de mettre en avant et dont vous avez envie de parler ?
Oui, c'est vrai que là, on a présenté aujourd'hui au colloque le diagnostic bâtiment santé, qui est une enquête faite auprès des acteurs du bâtiment pour voir leur prise en compte de la santé. Et on voit bien que Avant 2000, la santé n'était intégrée que dans 25% des projets et maintenant, c'est dans 41% des projets. Donc, on voit bien quand même une évolution.
Oui, évidemment. Comment s'est fait le choix de vos partenaires ? Parce que c'est important. Depuis 10 ans, vous vous êtes construit des partenaires autour de vous. Vous avez invité des partenaires à vous accompagner dans cette grande aventure. Qui sont d'abord vos partenaires et comment s'est fait le choix ?
Alors, le choix au départ, donc je vous l'ai dit, c'était Saint-Gobain parce que c'est eux qui m'ont dit... je pensais qu'on aurait pu créer une chaire d'entreprise avec eux. Mais c'était pas possible. Ils le font qu'avec les grandes écoles. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a suggéré de créer cet événement. Et Uniclimat, qui a été partenaire au début. Alors, ensuite, au fur et à mesure, bien sûr, la mayonnaise prend.
Évidemment.
Et suivant le sujet, bien sûr, du colloque, les partenaires changent un peu. Quand je parle produits de construction, c'est sûr que j'ai davantage de partenaires qui sont orientés produits de construction. Et quand après, on parle de la santé dans les bâtiments scolaires, c'est aussi d'autres partenaires. On a des fidèles qui nous suivent depuis pratiquement le début. Oui. Surtout, on a le soutien de l'ADEME. Hein,
très important.
Si on n'avait pas le soutien de l'ADEME, c'est sûr que nous ne pourrions pas réaliser ce type de colloque. Donc voilà. Et petit à petit, les partenaires sont différents. Là, maintenant, on a des équipementiers, on a du recyclage de l'aluminium, on a de la laine de roche recyclée. Enfin, donc, dans cette thématique aussi, cette année, il y a, bien sûr, des acteurs qui s'intéressent à l'économie circulaire, fatalement.
Effectivement. Alors, Suzanne, comment vous expliquez que, finalement, cette question liée à la santé dans les bâtiments ne se pose finalement que depuis 10 ans, alors que dans d'autres pays, cette réflexion a commencé depuis bien longtemps?
On ne peut pas dire que ça a commencé que depuis 10 ans. Grosso modo, moi, je suis sur ce créneau, puisque je suis médecin ORL et que j'ai changé d'exercice pour être avant la maladie, et plutôt que de l'attendre. Donc, moi, ça fait quand même 35, depuis 1986.
Que vous travaillez sur ces sujets.
Voilà. Donc, petit à petit, moi, j'ai vu progresser. Et c'est vrai que depuis 2000, donc ça fait quand même maintenant 20 ans, plus de 20 ans, là, cette prise en compte est nette.
Et les acteurs suivent ?
Et les acteurs suivent. Les acteurs suivent. Mmh. Bien sûr, après, il y a toujours le problème rituel, le coût.
Évidemment. Mais est-ce que le coût change ?
Non. Si on
travaille bien... Est-ce que réellement, c'est un coût important pour les entreprises ?
Non. Alors, ça a pu en avoir parce que il n'y avait pas une obligation de donner des informations. Mais c'est vrai que ce qui a changé beaucoup, c'est l'arrêté de 2011 et l'obligation depuis 2013 d'avoir un étiquetage des émissions des matériaux de construction. Alors, fatalement, c'est toujours pareil. Quand on met une réglementation... on booste. Hein. Et donc, la réglementation n'a pas qu'un effet négatif, elle a un effet positif. Hein. Et pour la santé, c'est net.
Très bien. Pour finir, Suzanne Deoux, comment vous imaginez l'avenir ? Quelles sont les prochaines évolutions que vous souhaitez voir, en tout cas, se mettre en place ?
Moi, je pense que là, on a déjà fait beaucoup de progrès sur la prise en compte des émissions de la qualité de l'air intérieur.
Oui. Hein.
C'est vrai, c'est le premier aspect, puisque on respire, on n'arrête pas de respirer, donc c'est très important. Mais aussi, il faut quand même voir aussi toute la composante psychologique des bâtiments, la composante sociale, c'est-à-dire faciliter les liens sociaux. Et je crois qu'avec l'épidémie du Covid, ça, c'est paramètres
c'est des questions qui vont se
poser. Voilà, qui émergent et qui vont peut-être progresser.
Bon, ce sera peut-être le sujet du prochain colloque, qui sait.
J'espère qu'il n'y aura plus de Covid. Hein.
Ah bah oui, évidemment, on le souhaite tous en tout cas. Merci beaucoup, docteur Suzanne Deoux. Je rappelle que vous êtes médecin et présidente, évidemment, du bâtiment Santé Plus. Merci encore.
Merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Oui, c'est vrai que le bâtiment, la santé, la qualité de l'air intérieur, on en parle régulièrement d'ailleurs, oui. Hein, sur Radio Immo avec notre ami Nicolas Blondet que l'on salue ce matin. Le projet de loi 4D. Oui, je sais, c'est pas facile à comprendre. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Décentralisation, différenciation, décomplexification, décentralisation. Voilà, vous savez tout. Ah oui, c'est un projet mastodonte.
C'est compliqué. Hein.
Ouais, absolument, qui est au Sénat depuis le milieu de la semaine. Tour d'horizon des principales mesures pour bien comprendre de quoi on parle avec Élodie Rabel.
Le projet de loi 4D prévoit l'encadrement des loyers prolongés de 3 ans dans les communes où il est expérimenté, Paris,
Paris, Lille et bientôt Bordeaux, Lyon, Villeurbanne, Grenoble et Montpellier. Ensuite, l'accélération de la récupération par les communes des biens dits 100 mètres ou en état d'abandon manifeste. Le délai pour lancer une procédure d'acquisition passerait de 30 à 10 ans seulement. Les objectifs, revitaliser les centres-villes, faciliter les opérations d'urbanisme et limiter l'étalement urbain en évitant de construire en périphérie. Autre mesure, prolonger la loi SRU sur les HLM, notamment son article 55 qui fixe des quotas de logements sociaux dans les communes, 20 à 25%. Une mesure qui sera très observée cette semaine. La commission des affaires économiques du Sénat veut interdire la création de logements très sociaux dans les communes comptant déjà 40% de logements sociaux. Ceci afin d'éviter l'apparition de ghettos de pauvres.
Le Mac de l'Immo, l'emploi dans l'Immo, Aurélie Dantèze.
Et oui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Il est l'heure de retrouver notre partenaire Recrutimo pour découvrir deux nouvelles annonces d'emploi parues cette semaine. Et pour cela, on retrouve Aurélie Dantèze, responsable de l'acquisition de talents chez Recrutimo. Bonjour Aurélie.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux offres parmi nos offres d'emploi que nous avons sur recrutimo.com. La première, Navier Immobilier, franchissez la forêt à Strasbourg, recherche des négociateurs immobiliers. Vous avez un véritable sens relationnel et commercial que vous souhaitez mettre à disposition de vos clients pour répondre à leurs besoins en matière de logement. Vous avez une véritable motivation et le goût du challenge afin d'atteindre vos objectifs. Venez rejoindre Navier Immobilier. La deuxième, l'agence Poutarel Immobilier Orpi recherche des conseillers en immobilier à Saint-François en Guadeloupe.
Aurélie, vous êtes également venue comme chaque semaine avec un conseil.
Et mon conseil pour les recruteurs, il est important d'être clair dès l'entretien avec le candidat sur le statut proposé ainsi que le mode de rémunération. Et pour les candidats, comment choisir parmi les différents statuts et titres entre les agents commerciaux, négociateurs immobiliers, VRP, mandataire immobilier ou agent immobilier? Il n'existe pas de meilleur statut objectif. Si certains statuts offrent de meilleures rémunérations sur le papier, le choix de l'un ou de l'autre de ces statuts dépend des objectifs de chaque candidat. Nous avons un article sur recrutimo.com qui explique toutes les différences avec les salaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.
Ben merci beaucoup. Et puis c'est vrai que ça permet d'y voir plus clair. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile les statuts hein, dans l'immobilier. Chez les agents immobiliers, voilà, on ne sait pas trop si on doit être salarié, indépendant.
Surtout en ce moment.
Donc voilà, allez voir sur recrutimo.com ce qui se passe. Merci beaucoup ma chère Aurélie Dantèze, recrutimo.com. Je le rappelle pour ceux qui sont intéressés. Tiens, on va retrouver la Queen Bérénice.
Alors c'est pas moi, mais c'est une musique qui a été demandée par nos deux réalisateurs Théo et Pierre-Yves. Ils n'arrêtaient pas de nous dire on la veut. Donc voilà, cadeau les amis, c'est pour vous.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup made me flaky.
chanson de Queen, Show Must Go On.
Bah oui, le show
continue. Ah bah oui,
en tout cas, c'est ce qu'on espère tous.
Est-ce que vous avez vu le film Bohemian Rhapsody sur Queen?
Non, je ne suis pas allé le voir à l'époque.
Et bah, faut
c'était
le regarder.
Quand, 2018
Oui, 2018, c'est avec Rami Malek. Il est incroyable ce film. Regardez-le.
Bah j'essaierai de le trouver, oui.
Ouais, je vous l'enverrai.
Ça marche.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Allez, il est 7h29, bon courage, c'est le dernier jour si vous allez au travail. Nexity se réorganise.
Eh oui.
Hélène Romano a été promue depuis le 24 juin, vice-présidente du pôle immobilier résidentiel de Nexity. Elle est remplacée dans ses fonctions par Stéphane Dallier, actuellement président-directeur général de Pitch Promotion, filiale d'Altarea, qui devient directeur général délégué du pôle. Alors Christophe, vous avez rencontré justement Hélène Romano et vous revenez avec elle sur son parcours, bien évidemment, et le lancement par Nexity du BRS, c'est le bail réel solidaire.
Hélène Romano est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue nous voir à Radio Immo. Première chose que j'avais envie de vous demander, on va évidemment découvrir vos fonctions à Nexity aujourd'hui, parler du marché immobilier, bien entendu. Il y a beaucoup à dire sur le marché immobilier en ce moment. On va parler du bail réel solidaire que vous portez également. Hélène Romano, très jeune, vous vous êtes dit... L'immobilier, c'est pour moi ?
Non. Je vais dire la vérité, non, bien sûr. Mais dès que j'ai découvert l'immobilier, je me suis simplement dit que je ne quitterais pas l'immobilier. Ça, c'est une certitude. Et je l'ai découvert à l'issue de mes études supérieures en sciences économie. Je voulais me diriger dans le commerce international. Et là, pour le coup, l'immobilier, ça, c'est un métier extrêmement local. Donc le commerce international ne m'a pas servi à grand-chose. Mais très clairement, l'immobilier est un métier... on peut y rentrer par hasard, beaucoup y rentrent par hasard, mais très peu en sortent.
Comment vous en êtes venu à l'immobilier, justement ? C'était quelque chose... Bon, même si ce n'était pas acquis d'avance, vous entendiez parler construction chez vous ?
Oui.
Oui,
oui, je suis fille de conducteur de travaux, donc j'ai toujours entendu parler de construction. Par tradition, je dis que je suis née dans le béton, évidemment, parce que la construction, à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix de matériaux, et le béton était le matériau de choix. Et petit à petit, j'ai bifurqué, enfin j'ai vu l'ouverture que proposait l'immobilier, qui est un métier finalement qui ouvre des tas de portes qui concernent la vie des gens, l'endroit où ils travaillent, l'endroit où ils se distraient, l'endroit où ils vivent, et l'impact qu'on peut avoir, et ensuite la dimension collective de ce métier. Ce qui m'a toujours plu, c'est que finalement, quand vous passez devant un immeuble ou un bout de quartier que vous avez contribué à construire, tout le monde peut revendiquer un bout de ce quartier, le maçon, le conducteur de travaux, l'architecte, l'ingénieur, le maître d'ouvrage, le vendeur d'appartements. Et en fait, c'est un métier où vous pouvez dire c'est moi et je laisse une trace, puisque effectivement l'immobilier est plutôt pérenne et je pense que c'est un des métiers qui est extrêmement concret.
Hélène Romano, l'immobilier neuf a dégringolé ces derniers mois. On doit être à 65 000 constructions en moins sur l'année 2020 à peu près. Est-ce que ça repart un peu ? Est-ce que ça redémarre ? Est-ce que ça frémit ? Qu'est-ce que vous ressentez ?
Ce qu'on ressent, c'est que la demande est toujours extrêmement forte en immobilier résidentiel. Elle s'exprime à la fois sur les villes moyennes, ça c'est un petit peu plus nouveau, on en a pas mal parlé, sur les grandes métropoles. Maintenant, le marché repart que très modérément, et bien sûr, il ne rencontre pas la demande parce que nous avons quand même du mal à obtenir les autorisations de construire. Et donc, les permis de construire. Et donc, l'offre, elle est à son plus bas niveau. Et la difficulté aujourd'hui, elle réside à rendre finalement la construction désirable. Désirable pour une collectivité, désirable pour un territoire. Et c'est vrai que c'est une difficulté parce que quand on construit, il faut des équipements, il faut de l'argent pour faire fonctionner tous ces équipements. Et c'est vrai que...
Ça pose des problèmes aux maires.
Ça pose des problèmes aux élus qui
ne
sont pas faciles à résoudre.
Hélène Romano, vous vous engagez sur le bail réel solidaire, alors notamment du côté de Villeurbanne, hein, si j'ai bien compris. Concrètement, pourquoi vous prenez cette décision et qu'est-ce que vous avez envie de montrer à travers ça aussi ?
Next City a toujours été sur la ville inclusive. C'est un, alors c'est une tarte à la crème aujourd'hui, mais c'est vraiment dans l'ADN du groupe depuis très très longtemps. C'est-à-dire rendre finalement le logement accessible à un nombre très important d'habitants. Donc la question de la solvabilité est centrale chez Next City. C'est le produit, le logement, mais si le logement n'est pas accessible ou qu'il est limité qu'à une frange de la population, on n'a pas rempli notre objectif. Donc on aide sur une certaine forme d'accessibilité du logement. Donc toutes les formes de propriété nouvelles qui permettent de rendre le logement abordable est une priorité chez Next City. Et logiquement, tous les sujets de désolidarisation du foncier et du bâti sont une façon de rendre... On l'a fait avec le démembrement de propriété, avec l'usufruit locatif social. Et là, le bail réel et solidaire, c'est finalement permettre l'accession à la propriété de personnes qui sont sous plafond de ressources, qui veulent pas être reléguées loin, mais qui veulent rester en centre-ville, qui ont peut-être besoin aussi de rester en centre-ville. Et notre opération Asile Urbaine permet finalement à des familles d'acheter moitié prix, puisqu'elles vont acheter que les murs et le foncier, qui représente entre 30 à 40% du poids de la valeur du logement, va être acquis par un office foncier solidaire qui va ensuite facturer une redevance mensuelle au prorata des mètres carrés à l'habitant. Et c'est, je pense, une façon de permettre aux personnes qui sont sous plafond de ressources de continuer à habiter là où elles veulent.
Et Next City a toute sa part, évidemment,
tout à fait,
sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Hélène Romano, d'être venue nous voir sur Radio Immo. Vous êtes vice-présidente, je le rappelle, du pôle immobilier résidentiel de Next City.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
7h36, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce dernier numéro du Mac de l'Immo, dernier de la saison. Hein,
de
évidemment.
La saison, oui, on va revenir très vite.
Ah oui, on revient à la rentrée. Alors, on va parler des retraites, d'un sondage justement qui a été réalisé pour les Échos.
Bah oui, parce que quand on est à la retraite, on a envie d'être bien logé aussi, de se sentir bien chez soi, de profiter évidemment de ce moment de vie, hein, voilà, après des années de travail. Et comme vous le savez, nous allons peut-être devoir travailler plus longtemps.
C'est vrai.
Parce qu'il faut financer ce système de retraite à la française, parce qu'on vit plus longtemps aussi, bien évidemment. Et donc, eh bien voilà, il y a cette idée qui est dans les cartons du gouvernement et du président de la République, qui est de dire il faut repousser la retraite de 62 à 64 ans. Sondage ce matin dans les Échos, et on voulait vous donner le résultat de ce sondage qui est sans appel, j'ai envie de dire, puisque seulement 20% des Français sont favorables à l'idée d'avancer la retraite, enfin d'avancer, de reculer la retraite plutôt, de 62 à 64 ans. Donc voilà, à un an de la présidentielle, après que les syndicats eux-mêmes aient dit on va peut-être attendre justement que la présidentielle se passe en 2022 et on décidera après, ou en tout cas on négociera après le cas échéant, on voit bien en tout cas que les Français ne sont pas prêts pour aller au-delà de 62 ans pour le moment. Je rappelle quand même, hein, parce que c'est important de savoir ce qui se passe à l'étranger, alors on se compare toujours aux Allemands, je ne sais pas si on a raison ou si on a tort. En tout cas, en Allemagne, eh bien, l'âge légal de départ à la retraite va passer dans les prochains mois, tenez-vous bien, à 69 ans.
Et les Allemands ne se plaignent pas.
Oui, et en même temps, j'ai envie de dire, à condition évidemment qu'il y ait du travail pour les seniors, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc moi, je veux bien qu'on repousse la retraite à n'en plus finir. Mais si en même temps, il n'y a pas de travail pour les seniors, ça va être un peu compliqué. Sujet à suivre, bien évidemment, ma chère.
Le Mac de l'Immo revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest, économie, art, science, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Immo. Alors, prêt à mettre le cap à l'ouest ?
Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Accéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Accéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
7h40 sur Radio Immo, vous êtes les bienvenus. Je rappelle que dans quelques minutes maintenant, nous allons recevoir l'invité de la semaine. Léa Mosconi sera avec nous, présidente de la Maison de l'Architecture Île-de-France, une femme engagée, vous le verrez, passionnée évidemment par son métier. Et puis dans quelques minutes également, Jean-Michel Royot va nous rejoindre comme chaque semaine pour nous présenter une start-up. Mais avant, on vous informe, vous le savez, Enerly, opérateur global de la transition énergétique, envisage d'accélérer son développement et pour ce faire, le groupe compte utiliser plusieurs leviers. Aurélie Godillière, présidente et cofondatrice d'Enerlys, vous a expliqué à vous, ma chère Bérénice Deville, quelle était la stratégie de l'entreprise.
Tout à fait. Aurélie Godillière, vous êtes présidente et cofondatrice d'Enerlys. Bonjour.
Bonjour.
Enerlys, c'est un acteur global et indépendant, il faut le préciser, de la transition énergétique. Vous l'avez créé, donc cofondé en 2013. Concrètement, quel est le métier d'Enerlys ?
Alors, Enerlys a deux objectifs. Diminuer la facture énergétique de ses clients et baisser leur impact environnemental en mettant en place les énergies renouvelables chez eux. On accompagne nos clients dans la décarbonation de leur patrimoine et on a des ambitions de décarboner le territoire et de les emmener vers la neutralité carbone. Donc on conçoit, on finance, on réalise et on garantit évidemment les économies d'énergie et les économies financières.
Oui, vous garantissez, c'est-à-dire que si jamais ce n'est pas le cas, en fait, le client n'a pas à payer, c'est ça ? Vous le remboursez ?
Exactement, exactement.
Qui sont vos clients ?
Alors, on s'adresse... Nous travaillons avec tout le monde, sauf le particulier, donc très présent dans le résidentiel, notamment auprès des bailleurs sociaux, dans le tertiaire aussi, l'industrie et l'agriculture grâce au solaire notamment.
Vous êtes un groupe en pleine croissance. Déjà en termes de chiffre d'affaires, vous pouvez nous rappeler les chiffres d'affaires de ces dernières années. En 2019, c'était 50 millions d'euros.
Voilà, il est passé à 93 millions d'euros en 2020 et ce malgré la crise. Et en 2021, on prévoit d'atteindre plus de 140 millions d'euros, soit encore 50% de croissance.
Et en termes de collaborateurs, du coup, vous avez grossi, j'imagine aussi.
Alors, nous employons aujourd'hui 185 collaborateurs, presque 200 à l'heure où je vous parle. On est composé principalement de commerciaux, d'ingénieurs, de développeurs et d'équipes de production et de fonctions support, bien sûr. On a un index de la parité femmes-hommes qui s'établit à 97% pour l'année 2020. Voilà.
Donc c'est important pour vous, c'est des valeurs
c'est
qui sont importantes.
Exactement.
Vous ouvrez votre capital aussi, vous l'avez annoncé en conférence de presse cette semaine. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors on a décidé, alors comme on a des perspectives et des ambitions assez importantes comme vous pouvez le constater, et pour appréhender le marché et tirer un peu parti au mieux du contexte favorable, on ouvre notre capital de manière minoritaire pour renforcer notre stratégie en fait d'intégration de nouvelles expertises, de nous développer à l'international. Et bien sûr, il y a un levier important qui est l'aspect financier pour nous accompagner dans tout ça. Pour pouvoir assurer et financer notre développement, on a besoin d'un fonds.
Oui, donc là, le côté financier, c'est un des leviers de croissance. Quels sont les autres leviers de croissance ?
Alors, l'autre levier de croissance, c'est de se développer à l'international. Et pour se développer à l'international, on a besoin de cet accompagnement, si vous voulez, financier. Donc on a commencé, nous, on vient de s'implanter là en Espagne, et on est en train de regarder pour s'implanter en Italie, et notamment en Scandinavie.
D'accord. Donc l'international, c'est ce que vous avez en tête. Donc Espagne, Italie et Scandinavie.
Voilà. Mais également, donc aussi, ça passe par le renforcement de notre stratégie d'intégration de nouvelles expertises, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la croissance externe aussi nationale, qui passera par le rachat de sociétés qui ont des expertises un peu plus poussées que nous sur certains sujets.
Comme quoi, par exemple ?
Bah, par exemple, sur les performances environnementales, par exemple des bureaux d'études ou sur l'éclairage, vous voyez ?
Mm-hmm. Ouais.
Voilà.
Des choses
Ou même sur l'installation de bornes de recharge, pardon, oui.
Ouais, l'installation de bornes de recharge, ouais. Des choses qui seront importantes pour vous dans les années à venir.
Tout à fait, exactement. Ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'il y ait une vraie mobilisation de tous les acteurs vers le zéro carbone. Et on vient d'ailleurs, nous, de créer une société dédiée à Enerly Zéro Carbone pour proposer une offre de compensation carbone à nos clients. Et pour qu'on fasse de notre société, d'ailleurs, un acteur un peu exemplaire en la matière.
Oui, vous avez créé d'ailleurs plusieurs choses, cette société, mais aussi une formation.
Un CFA, tout à fait.
Ouais.
Parce que on se rend compte, finalement, on a un engagement fort et d'implantation, notamment dans les territoires. Et on cherche beaucoup à recruter. Et on s'est rendu compte que certains métiers n'étaient plus vraiment adressés. Donc, on a créé notre propre centre de formation pour apprentis, justement, pour former les jeunes aux métiers de la transition énergétique. Et on voudrait accueillir une dizaine de jeunes chaque année. Et ce CFA, on s'engage à engager, à employer ces jeunes chez Enerly, dans le groupe Enerly.
En fait, on sent que vous êtes un groupe basé sur l'engagement, hein, que ce soit auprès de vos clients, auprès de vos collaborateurs. C'est très important pour vous, l'engagement.
C'est très important, la fiabilité et l'engagement. Le respect de la parole donnée.
Ouais. Et justement, juste une dernière chose, vous avez un objectif bien précis. En 2050, quel chiffre d'affaires vous voulez atteindre ?
Alors, même avant 2050, hein, on aimerait 2030. Atteindre 2030, voilà, on aimerait atteindre le milliard d'euros grâce à tout ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, justement.
Ouais. Grâce au levier de croissance, à l'ouverture du capital, etc. Très bien. Et bien, merci infiniment, Aurélie Godillard. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et présidente d'Enerly. Merci infiniment pour cette interview.
Merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et bon réveil sur Radio Immo, il est 7h46, on est ensemble encore jusqu'à 9h.
Et avec plaisir.
Et avec plaisir, évidemment. Les conditions d'une pénurie de logements sont réunies. Aïe, aïe, aïe. De nombreux Français pourraient ne plus trouver de toit à se mettre sur la tête. Hein. C'est le cri d'alarme lancé par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, Élodie Rabel.
26% de logements en moins dans tout le pays. Ce sont les chiffres collectés par les principaux portails immobiliers. Dans le détail, moins 3% à Paris, moins 27% et moins 32% dans les villes moyennes et rurales. L'ancien, on le sait, ne se porte pas bien et il ne faudra pas compter sur le neuf pour redresser la barre. La construction est elle aussi au point mort. La FNAIM ne croit pas aux solutions avancées pour éviter la pénurie de logements, à commencer par le retour sur le marché des locations touristiques. Pourquoi ? Parce que ces biens n'ont pas besoin de permis de louer, ne sont pas soumis non plus à l'encadrement des loyers, ni même aux critères de décence du logement. Et avec les nouvelles normes énergétiques, les propriétaires qui ne veulent pas rénover leurs biens pourraient bien se tourner vers les plateformes type Airbnb. L'autre solution avancée par les politiques, à savoir le retour des investisseurs institutionnels, est un mythe pour la FNAIM, car le poids du résidentiel ne dépasserait pas les 0,7% des actifs. La FNAIM en appelle donc au pouvoir public pour lancer enfin la création d'un statut de bailleur privé locatif.
Le Mag de l'Immo, la start-up Immo, Jean-Michel Royot.
Ah ben c'est pas Jean-Michel Royot qui va nous dire le contraire, hein, bien évidemment. Hein. Il nous faut des permis de construire, Jean-Michel. Absolument, on n'en peut plus. Christophe. Il faut du foncier. On n'arrête pas de le dire sur cette antenne.
On va y arriver.
Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est vrai que ça fait au moins, on a le même âge à peu près, ça fait quoi, 40 ans qu'on entend qu'il n'y a pas assez de logements en France. Donc voilà, c'est quand même un souci récurrent, quoi. Hein. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Mon cher Jean-Michel, effectivement, vous êtes venu pour nous présenter une nouvelle start-up, comme chaque vendredi, Omise, avec son cofondateur, Johan Lévy, qui est avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour.
Jean-Michel, c'est à vous.
Bonjour, bonjour Bérénice, bonjour Christophe,
mais bonjour
de vous retrouver ce matin. Effectivement, ce matin, on va parler digital, immobilier, économie sociale et solidaire. Je suis ravi de vous présenter Johan Lévy, 27 ans, HEC.
Ah ben ça se voit qu'il n'est pas vieux. Hein.
Ouais. Et créateur d'une très belle start-up qui s'appelle Omise, avec un H, H-O-M-I-Z. Bonjour Johan.
Bonjour Jean-Michel.
En forme
ouais,
ce matin
bien.
Ça piquait pas trop ?
Un petit peu, mais merci de m'accueillir.
Allez, on va y aller. Donc, on garde nos petites traditions dans cette chronique, hein, avec nos questions rituelles. Alors, Johan, quelle est la promesse de votre start-up ?
Alors, notre promesse, la promesse de Omise, c'est d'optimiser le parc immobilier par la cohabitation de générations pour répondre à la fois au mal-logement des jeunes et à l'isolement des seniors.
Donc, ça signifie quoi concrètement ? Ça se passe comment ?
Est-ce qu'on lui donne une minute pour nous en dire plus ?
Bah oui, au moins !
Bon. Allez,
allez-y, non mais dites-nous comment ça fonctionne concrètement.
Alors, concrètement, il y a 85% des seniors en France qui vivent dans des logements trop grands pour eux, qui s'y sentent seuls, mais qui veulent y rester, alors même qu'ils ont parfois du mal à payer leur loyer. Mmh. Et de l'autre côté, il y a 20% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui consacrent en moyenne 70% de leur budget au logement. Nous, chez Omise, on permet aux seniors d'accueillir des jeunes de confiance chez eux, conformément à la loi Elan, dans le parc privé comme dans le parc social. On apporte donc aux seniors une présence rassurante à domicile, des petits services qui vont faciliter le quotidien, et puis un complément de retraite significatif non imposable. Le jeune, lui, il a accès à un logement plus confortable, bien situé, à un coût abordable. Et quant aux acteurs de l'immobilier, on leur permet d'optimiser leur parc, de sécuriser le paiement des loyers, et puis, bien sûr, de mieux satisfaire leur clientèle senior.
Et ça fonctionne bien parce que c'est vrai qu'on se dit... Moi, quand Jean-Michel, quand on a préparé cette émission hier, m'en a parlé, je me suis dit tout de suite, bon, je vois le mal partout en même temps, mais c'est un peu comme ça. Mais je me suis dit, oulala, mais ça peut être un jeune dangereux qui peut faire du mal à la personne âgée, ça peut mal se finir, on sait
pas
jamais, lui voler son argent, on sait jamais. Enfin bon, toutes les questions qu'on se pose,
non, c'est vrai. Oui, bien sûr, on sélectionne minutieusement nos membres, nos jeunes comme nos vieux d'ailleurs, comme nos seniors. On s'assure bien que...
Mais comment vous les sélectionnez ?
Alors, par le biais de partenaires jeunesse. Hein, on a par exemple des écoles d'infirmiers ou des structures du médico-social, des jeunes en service civique, qui vont montrer qu'au-delà du besoin financier, il y a aussi une vraie ouverture intergénérationnelle, une vraie appétence à échanger avec l'autre.
Oui. Mais alors, imaginons, ce qui n'est plus probable aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, que je sois étudiant.
D'accord.
J'ai 22 ans, je suis étudiant.
C'est plus
merci d'en rajouter. Imaginons que je sois étudiant, effectivement, et que j'aille vivre avec une personne senior dans son appartement.
Ouais.
Ça veut dire que, par exemple, pour moi, l'étudiant, en termes de coûts, globalement, en moyenne, ça va représenter quoi alors ?
Alors, en moyenne, ça va dépendre évidemment de la géographie, de la superficie du logement et de la quantité de services qu'on va rendre.
Nous, oui.
On joue vraiment sur la possibilité de rendre contrepartie en services, mais aussi financières. Et même s'il n'y a pas de services qui sont rendus, on va toujours être à moins 40% des prix du marché.
Donc, ah oui, c'est intéressant.
C'est très intéressant.
Mais quand vous dites service rendu, c'est-à-dire que, par exemple, l'étudiant qui va vivre chez le senior, il va l'aider à faire la vaisselle,
par exemple,
le ménage.
Tout à fait, selon son rythme de vie.
Il va jouer aux échecs avec lui,
Exactement, l'image sur le site Omise, c'est justement ça,
voilà.
C'est les échecs.
Bon, très bien.
Tout à fait. Oh, ouais. Ça peut être de l'aide informatique aussi, c'est très demandé ça. On pense que la cohabitation peut être un vrai levier de digitalisation des seniors, de l'aide administrative, d'aide aux courses, des petites choses.
Faire les courses, évidemment.
Monter le courrier, ça peut être plein de choses qui
les packs d'eau au quatrième étage sans ascenseur et ainsi de suite. Quoi. Et ça responsabilise aussi peut-être un peu les jeunes d'ailleurs, non ?
Il peut
y avoir de ça, Jean-Michel, aussi. C'est intéressant quand même.
C'est très intéressant et ce qui est très important aussi, je me permets de le préciser, Johan, c'est que le cadre juridique a été bien défini, puisque en particulier sur les bailleurs HLM, la sous-location est interdite.
Ah oui.
Et là, en l'occurrence, on a un cadre juridique de sous-location intergénérationnelle organisé. qui permet du coup d'optimiser ces surfaces et donc d'offrir aux jeunes. Alors la notion de senior et junior, donc là je parle sous le contrôle de Johan, hein, mais c'est 60 ans pour les seniors, donc on y échappe, Christophe.
Oui, enfin, pas pour longtemps, mais...
Et junior, c'est moins de 30 ans.
C'est ça, c'est la loi qui le définit.
Voilà. Donc moi, on pense évidemment aux seniors, mais on pense aussi à tous ces jeunes actifs et ces étudiants qui galèrent. Mmh. Hein, et donc c'est un peu la période aujourd'hui où ils cherchent. Mmh. Et donc, Omis va pouvoir...
Et ça marche très bien. Enfin, quels sont vos chiffres?
Nos chiffres, c'est qu'on a organisé jusqu'à aujourd'hui plus de 70 cohabitations. Qu'on en redemande,
dans toute la France.
Dans toute la France, exactement. Qu'on en redemande que quand on laisse une chance à ce modèle, qui n'est pas intuitif aujourd'hui, et c'est bien notre combat que de le rendre de plus en plus populaire, et ben, en fait, on veut y revenir, que ce soit côté jeune comme côté senior. Et on se rend compte qu'au-delà de la complémentarité matérielle, logement compte service, il y a aussi un vrai lien humain qui est cassé aujourd'hui entre les générations. Moi, j'ai plus de grands-parents pour l'information et je me rends compte, c'est aussi ça qui est la source de ce projet.
Non, mais ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que effectivement, le lien intergénérationnel, quand même, depuis pas mal d'années, c'est complètement délité, quoi. Donc là, il y a une chance de se retrouver.
Et on sécurise financièrement.
Et comment ça se passe alors? C'est qui les clients? Enfin, comment?
Alors concrètement, soit c'est du B2C, donc quelqu'un, si vous par exemple, qui nous écoutez, vous avez des parents qui habitent seuls, vous avez vous-même une chambre de libre, vous avez plus de 60 ans, vous cherchez un logement pour la rentrée, vous êtes jeune, vous pouvez vous inscrire directement sur omiz.eu pour trouver une cohabitation. Et si vous êtes un acteur de l'immobilier, vous pouvez nous contacter, on travaille avec des bailleurs sociaux.
Voilà, ça me permet d'enchaîner. Hein, donc, Jean-Michel. Qui vous fait confiance aujourd'hui?
Aujourd'hui, bien sûr, le projet a vu le jour grâce à la confiance de la Banque des Territoires, de Clésia, de Malakoff Humanis. Et aujourd'hui, on a des bailleurs sociaux qui ont travaillé comme Mylène Vie Habitat, Villogia et Maïs Habitat. Et puis, sur le volet autonomie, maintien à domicile, c'est la CNSA et la mairie de Paris qui nous font confiance. Et enfin, on vient de recevoir le prix Fondation Crédit Coopératif Inspiration.
Bravo.
Voilà, merci.
Donc, très belle signature. Et
absolument.
Puis, je sais qu'il y en a d'autres.
Très bonne idée.
Qui sont en cours de négociation, donc dans les prochaines semaines, Johan va nous faire des annonces. Comment on fait pour vous contacter?
Mais voilà, comme je le disais, si vous cherchez une cohabitation pour vous, vos proches, vous vous inscrivez directement sur Omis, omis.eu, et si vous voulez échanger avec nous, un professionnel, ça peut être par LinkedIn, Johan Lévy, ou bien par mail, contact@omis.eu.
Voilà. Donc on retrouvera toutes ces coordonnées sur évidemment le podcast à réécouter.
Absolument.
Sur Radio Immo, et puis évidemment on va faire un petit post dans les prochaines heures, et donc je compte sur vous pour bien le relayer, pour faire connaître cette belle démarche qui allie digital, immobilier et économie sociale et solidaire, et on en a vraiment bien besoin à l'heure actuelle.
Jean-Michel Royot, j'espère que vous allez repartager parce que vous avez tellement d'abonnés.
Ah
que
oui.
Ça va faire le buzz.
Vous faites le buzz sur les réseaux, Jean-Michel.
Royot, il fait le buzz. Bon,
merci.
Merci, merci Jean-Michel pour cette présentation, en tout cas avec Johan Lévy, la start-up Omis. Merci beaucoup pour cette initiative, en tout cas belle initiative.
Merci à tous.
Une fois de plus. Merci Jean-Michel. On va se retrouver durant l'été quand même. Hein. On va se faire de la start-up ensemble.
Avec plaisir.
Parce que le Mac de Limo, là, c'est la dernière émission de la saison, mais on va se retrouver bien évidemment tout au long de l'été. Allez, on va se détendre un petit peu avant les infos et avant d'accueillir notre invitée,
Léa Mosconi,
présidente de la Maison de l'Architecture Île-de-France. Un peu de musique,
oui,
Bérénice.
La dernière musique d'Ed Sheeran, je ne sais pas si vous la connaissez, Bad Habits, Mauvaises Habitudes, et le clip est très sympa. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.